C'est un mensonge éhonté que de prétendre qu'il n'y a eu au Mali ce samedi et à l'occasion d'une manif célébrant l'expulsion de Barkhane que quelques centaines de Maliens. Mais la puissance d'occupation ne croyait jamais avoir un jour à prendre ses clics et ses claques et être forcée à se barrer humiliée des territoires maliens. RFI écrit, ce samedi, des centaines, voire quelques milliers de personnes se sont réunies à Bamako pour manifester leur joie suite au départ annoncé de troupes françaises du Mali. Ce rassemblement s'est tenu à l'appel du collectif Yerevan le Debout sur les remparts, qui réclame depuis sa création il y a 3 ans le retrait de l'armée française du pays. On comprend parfaitement que les journalistes de RFI aient à revoir à la baisse le nombre des manifestants pour chercher à limiter l'ampleur de la défaite que Barkhane a subie au Mali face à une population soudée qui a réussi à mettre à l'échec le projet du démembrement du pays, et ce au prix du sang versé des milliers de Maliens dont personne ne parle. Mais avouons que le lecteur a du mal à comprendre tout de suite cette tentative de collectiviser la joie que chaque Malien patriote sent au plus profond de son être depuis que le gouvernement a exigé à la force d'occupation, responsable des milliers de crimes de guerre, de quitter immédiatement le Mali, et ce avec en toile de fond une remise en question nette des accords dits de défense imposés par la France au Mali. D'où ce média mensonge qui prétend qu'il y avait moins de manifestants maliens que prévu. Face à une scène, une foule de manifestants remplit le versant nord de la place de l'Indépendance pour une mobilisation moins importante qu'annoncée. Et puis cette autre tromperie que le journaliste de RFI fait dire à une centaine de manifestantes qui affirme « Perpétue Uro-Ogon, enseignante, fustige le peu de résultats de l'intervention Barkhane. Elle est amère et pressée de voir les contingents français quitter son pays. » La France nous a dessous. Dès aujourd'hui, ils n'ont qu'à plier bagages. On a assez avec cette armée française. On n'a pas besoin de la France. Et RFI de poursuivre, la Russie, tout comme son drapeau présent dans l'Assemblée, est brandie comme le nouvel allié. Placé sous le signe de la victoire, ce meeting se veut une célébration. RFI affirme qu'en 2012, quand la France venait libérer Kona, on était tellement content qu'on a même baptisé des enfants au nom de François Hollande. Mais si tu vois aujourd'hui que ce même peuple se lève pour dire « allez-y », ça veut dire que la France a failli. En effet, ce que RFI tente de faire, c'est ni plus ni moins d'effacer des années d'occupation. Et comment ? Eh bien, jamais le peuple malien n'a demandé à ce que la France vienne occuper son pays. Jamais les terroristes ni la violence n'existaient avant que la France vienne occuper le nord du Mali et chercher via l'accord d'Alger à amputer le nord du reste du pays. La France n'a donc pas déçu. Elle a fait son projet de déstabiliser le Mali et au-delà le Sahel. Ce qui veut dire que cette expulsion, si elle est aujourd'hui célébrée et que la France cherche à en faire endosser la responsabilité à la Russie, comme si les Maliens n'avaient pas le droit souverain de choisir avec qui s'allier, elle pourrait demain déboucher sur d'autres choses. Plainte contre la France pour plus de 8 ans de crimes de guerre et la responsabilité de la mort des milliers de Maliens dont aucune instance des droits de l'homme ne se soucie guère. C'est curieux, 2 manifs, 2 couvertures médiatiques totalement opposées du RFI et encore sur la même page. Le média colonialiste français affirme sur sa page, juste en dessus de la manif anti-française au Mali. Voici comment il le reporte. Des milliers de personnes se sont réunies à l'appel de plusieurs organisations de la société civile pour soutenir le MPSR au pouvoir à Ouagadougou. Le rassemblement, selon les organisateurs, avait un seul but, soutenir l'élan de sursaut patriotique de la junte dans sa reconquête des localités occupées par les groupes armés. Les organisateurs ont lancé un appel à la junte de rassembler tous les Burkinabés autour de cette lutte. Cela veut dire donc que cette manif n'avait rien contre la France, sa force Barkhane et surtout le fait que depuis l'arrivée au pouvoir de la junte burkinabé, le pays assiste à une détérioration de la condition sécuritaire acre. La junte, laissant de côté toutes les préoccupations, s'est focalisée exclusivement sur l'armée, sa taille et la question de centralisation, façon d'affaiblir, on le devine, les forces populaires. Cette géniale idée qui a empêché pendant tout le temps où Barkhane mettait le Mali et le Niger à feu et à sang par l'implosion terroriste au Burkina. Réfi insiste d'ailleurs sur le fait que ces 10 manifestants voulaient seulement et seulement le retour de l'armée dans des localités occupées par des groupes armés, lesquelles, celles que juste avant le coup d'État, protégeaient les forces populaires au prix de leur vie et où elles empêchaient toute infiltration. D'ailleurs, depuis le coup d'État, les cellules terroristes liées évidemment à qui on sait la France, se sont mis à faire chanter les populations pour les pousser à quitter leur village, et ce, au mépris du grand acquis sécuritaire que fut le retour sous Caboret des milliers de réfugiés dans leurs villes et villages d'origine. À quoi joue la France ? Tente-t-elle de leurrer un peuple burkinabé qui a prouvé à maintes reprises qu'il est ce peuple qui a enfanté Sankara ? Les jours à venir nous le diront.
La Turquie intervient en Afrique pour renforcer les intérêts américains. Le projet des Américains, c'est de remplacer les Français par les Turcs. Depuis l'intervention d'Erdogan en Libye en décembre 2019, qui s'est servi des terroristes d'Idlib pour reconquérir la Libye, la Turquie, évidemment, fait le sale boulot des Américains. On constate aujourd'hui que dans tous les pays auxquels la Russie s'intéresse, ou tous les pays qui ont un peu des velléités d'indépendance, les Turcs s'installent. La Turquie suit d'ailleurs son propre agenda pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'Erdogan cherche des contrats, il cherche des marchés dans une économie qui va mal, puisque la Turquie d'Erdogan est en échec économique, il y a eu un effondrement de la livre turque. Et donc, il est primordial pour Erdogan de conquérir ces nouveaux marchés. Mais fondamentalement, le volet géopolitique, c'est de remplacer, bien entendu, les Français par les Turcs et d'introduire les Turcs dans tous les pays auxquels s'intéresse la Russie. Certains, évidemment en Afrique, ont une certaine sympathie pour Erdogan qui s'attribue à tort comme étant un État du tiers-monde et musulman, alors que c'est la deuxième puissance de l'OTAN et le principal allié des États-Unis et de l'OTAN en Méditerranée, au Proche-Orient et en Afrique. Qu'est-ce qui fait que Erdogan a cette sympathie ? Justement, ses positions anti-françaises. Quand il insulte Macron, quand il tient la dragée haute aux Français, évidemment, il parle un langage qui plaît aux Africains, mais les Africains ne perçoivent pas quelle est la véritable nature d'Erdogan et son lien fondamental avec l'impérialisme américain. Ce qu'on appelle le néo-ottomanisme, c'est-à-dire la doctrine géopolitique de l'AKP, c'est la reconstitution d'une sphère de coprospérité sur le modèle de l'ancien empire ottoman, n'est possible que dans le cadre des projets géopolitiques des États-Unis au Proche-Orient, en Afrique. Ce qu'on appelait au début du siècle, sous Bush 2, le Grand Moyen-Orient, et qui était une zone en fait qui allait du Maroc jusqu'à l'Asie centrale, et l'irruption de la Turquie et la reconstitution de l'Empire ottoman n'était possible que ce Grand Moyen-Orient, puisqu'il voulait faire éclater les États et notamment amener en Afrique et en Afrique du Nord et au Proche-Orient et en Asie centrale l'avènement de 29 nouveaux États. Malheureusement, au milieu de cela, ce qu'Erdogan n'avait pas prévu, c'est que les Américains avaient le projet de lancer ce qui est sa grande hantise, un Kurdistan indépendant.
En 2021, le Ghana a expédié 302 229 mètres cubes de bois, soit un niveau en hausse de 34% par rapport à l'année dernière. L'information a été annoncée par l'unité statistique et recherche de la division développement de l'industrie du bois. D'après l'institution, cette performance a permis de faire progresser les recettes de 18% à environ 155 millions de dollars. Les principales destinations ont été l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Pour rappel, le Ghana possède une superficie des forêts de 7,98 millions d'hectares, ce qui en fait le second pays forestier d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria, selon les données de la FAO. Les marchés asiatiques ont été la destination de 65% des volumes exportés, 17% allant vers l'Europe, 13% vers le reste de l'Afrique, 4,6% vers l'Amérique et 3,6% vers le Moyen-Orient. L'ambassade du Kenya se désolidarise des propos désobligeants tenus par William Ruto, vice-président kényan, à l'endroit des Congolais. Il a par la même occasion présenté ses regrets au peuple congolais. Convoqué au ministère des Affaires étrangères par le secrétaire général Joska Kabongo, l'ambassadeur kényan en RDC, George Massafou, a présenté des excuses et rappelé la qualité des rapports entre les deux pays. « Nous sommes très proches, nous sommes venus voir le secrétaire général à cause des propos tenus par le vice-président du Kenya. Il a quitté le gouvernement il y a 3 ans, mais notre constitution ne permet pas au président de le virer. Présentement, il gère un parti de l'opposition. Ce qu'il dit n'engage pas le gouvernement », a expliqué George Massafou. Le gouvernement kényan réitère son engagement de continuer à construire un partenariat solide. Cette relation remonte à l'indépendance de nos pays respectifs. Lumumba était un grand ami du président Kenyatta. Nous avons toujours été de bonnes amies. Nous avons des échanges commerciaux. On se respecte, nous parlons la même langue, a-t-il ajouté. Le rapport 2021 d'Interpol révèle de grandes disparités dans les déclarations des deux pays sur les quantités d'or vendues aux Émirats arabes unis en 10 ans. Selon le rapport de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol de mai 2021 intitulé « L'exploitation aurifère illégale en Afrique centrale de 2008 à 2017 », on constate d'importantes différences entre la déclaration annuelle du Cameroun sur les exportations vers les Émirats arabes unis et celle des Émirats arabes unis sur les importations depuis le Cameroun. En effet, le rapport de cette organisation internationale qui permet aux polices de 194 pays membres de travailler ensemble pour lutter contre la criminalité internationale indique que les chiffres officiels des exportations annuelles vers les Émirats arabes unis déclarés par le Cameroun n'ont jamais dépassé 32 kg. Or, en 2017, pendant que les Émirats arabes unis reconnaissaient avoir importé 10,9 tonnes d'or en provenance du Cameroun, celui-ci ne déclarait que 4 kg d'or exporté vers ce pays du Moyen-Orient. En RDC, le gouvernement et la commission électorale ont multiplié les prises de parole contradictoires concernant les fonds destinés à l'organisation des scrutins. À 2 ans de la date prévue, le spectre d'un glissement semble loin d'être dissipé. Faut-il déjà craindre un report des élections censées se tenir en 2023? La question pourrait, à 2 ans de l'échéance, paraître prématurée, mais les récentes déclarations du gouvernement comme de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, invitent à la prudence. Lors d'une interview à la radio Top Congo le 12 février, Denis Kadima, le président de la CENI, a en effet émis les mêmes réserves que lors de la présentation de sa feuille de route le 3 février dernier, séquence qui n'avait pas franchement rassuré ceux qui doutent que les futurs scrutins puissent se tenir dans les délais. S'il a affirmé que le glissement n'était pas une option, il a aussi appelé les différentes parties prenantes à faire leur part, précisant que si les élections ne se tenaient pas dans les délais constitutionnels, le gouvernement serait l'un des responsables majeurs de ce retard.